Le journal avec vous, Frédéric Beigneda, bonsoir.
Bonsoir. Au sommaire de cette édition, une minute de silence, une Marseillaise et une décoration à titre posthume. L'hommage du ministre de l'Intérieur ce matin à Istres, au pilote de la sécurité civile qui a trouvé la mort dans l'accident de son bombardier d'eau la semaine dernière. La mort d'un maire qui émeut la classe politique et interroge sur la place des élus dans leur commune. Jean-Mathieu Michel décédé après avoir été renversé par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants pour avoir jeté des gravats. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Des sanctions plus lourdes pour les navires humanitaires. Le gouvernement italien durcit sa législation contre les ONG qui viennent en aide aux migrants méditerranéens. Une victoire pour Matteo Salvini et son parti d'extrême droite et qui provoque l'inquiétude du haut commissariat aux réfugiés. Dans ce journal, nous reviendrons sur la disparition de la romancière américaine Toni Morrison à l'âge de 88 ans, première afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Au téléphone sonne ce soir la contraception masculine. Bonsoir Yves Decamp.
Bonsoir, elle n'est pas seulement l'affaire des femmes. La contraception du futur concernera sans doute aussi les hommes. Certains s'y sont mis déjà, encore très peu nombreux en France. La contraception masculine, pourquoi, comment? Vos questions, vos remarques au 01 45 24 7000.
Yves Decamp, la météo c'était tristounet. Aujourd'hui ce sera mieux demain, nous dira Sébastien Léas à la fin de cette édition. Un frère, un ami parti en héros, c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, très ému, a salué aujourd'hui la mémoire de Franck Chesneau, mort en mission la semaine dernière dans l'accident de son bombardier d'eau à Générac. En rappelant son acte de bravoure, le ministre l'a élevé chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Sylvie Duchesne a assisté à la cérémonie sur la base de Nîmes-Garance.
Un silence total entoure l'arrivée du cercueil porté par 6 pilotes de la sécurité civile habillés de leur combinaison rouge. C'est le commandant Éric Agrignier des pompiers du Gard qui dirige les opérations.
C'est un mélange de beaucoup d'émotions parce que c'est un sapeur-pompier du ciel, mais c'est un sapeur-pompier tout court. On n'est pas insensible à ce qui s'est passé. On est face au cercueil, on est face à la famille. C'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, qui a 2 enfants comme moi, donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent.
Benoît, pilote Indache à la base de la sécurité civile, c'était un ami de Franck.
On pense à notre mission, à notre devoir. C'est le cœur lourd, mais on continue. Malheureusement, des événements nous rappellent que, eh bien, parfois, des moments tragiques.
Pas question, après le drame, d'abandonner la mission qui leur a été confiée. C'est le sentiment de tous les pompiers, confirme le colonel Christian Simonet, qui dirige le 10-30.
Forcément, ça casse un peu quelque chose, mais dans un deuxième temps, il y a un petit peu le réflexe de se dire, bon, il n'est pas parti pour rien. Et on est là pour tenir le coup, et en pensant à lui, en pensant à tout ce qu'il a donné, on essaye de donner le maximum de chacun. Tous les pompiers de France sont dans cet état d'esprit aujourd'hui.
Après l'hommage officiel, c'est en privé qu'auront lieu ce mercredi les obsèques du pilote dans les Bouches-du-Rhône.
Dans le Var, la tristesse et la colère dominent après la mort du maire de Signes, petite commune près de Toulon. Jean-Mathieu Michel a été renversé par le conducteur d'une camionnette qui venait de déposer illégalement des gravats sur le chemin de la commune. Sur un chemin de la commune, le conducteur et le passager du fourgon, des ouvriers du bâtiment, ont été placés en garde à vue. A priori, il s'agirait d'un accident. Mais l'émotion est vive au sein de la classe politique et chez les élus locaux, de plus en plus confrontés aux incivilités. Écoutez l'indignation de Jean-Luc Moudinc, le maire de Toulouse.
La violence, malheureusement, dans notre société, elle est en progression. Et les élus sont des cibles. Notre démocratie est une démocratie malade. Et c'est facile de trouver un bouc émissaire. Et les élus, vous savez, on nous voit. Les gens nous connaissent, donc forcément on est des cibles potentielles. Tantôt nous sommes vilipendés pour telle ou telle chose, et on en parle beaucoup. Tantôt ce sont des choses plus concrètes, plus modestes. Mais c'est important que les citoyens soient conscients de ça, que les élus, c'est pas des honneurs, un mandat de confort, que c'est devenu quelque chose de une servitude parfois. En tout cas, c'est du service.
Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinc. La commission des lois du Sénat annonce ce soir le lancement d'une consultation des maires sur les violences auxquelles ils sont confrontés. Un hommage au maire de Signes aura lieu jeudi. Emmanuel Macron, en villégiature à Brégançon, a fait acheminer une missive cet après-midi à la veuve du maire de Signes. Cafouillage administratif et comme un certain flou artistique autour de la reprise du chantier de Notre-Dame. On attendait ce matin les résultats des analyses au plomb de l'Agence régionale de santé. On attendait également pour demain le début des travaux de dépollution du site promis par la mairie de Paris. Mais au final, il ne s'est rien passé avec cette impression que chacun semble se renvoyer la patate chaude. Bonsoir Karine Becker.
Bonsoir.
Est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair ?
Non. En fait, chacun dit que c'est la faute de l'autre. Pour la mairie de Paris, c'est à l'État d'agir et pour l'État, c'est à la mairie de faire quelque chose. C'est tout le problème des compétences partagées, des compétences croisées. La cathédrale de Notre-Dame fait partie du patrimoine national, donc sa restauration, sa dépollution, son confinement éventuellement, puisqu'il en est question, sont du domaine de l'État. En revanche, les particules de plomb dans les écoles et dans les crèches, ça, c'est de la responsabilité de la municipalité. En réalité, le reproche que fait la mairie de Paris au gouvernement, c'est de ne pas s'engager sur ce dossier suffisamment franchement, en communiquant plus, en donnant des résultats sur les taux de plomb plus régulièrement et en organisant, par exemple, tout un système de suivi sanitaire pour les gens. Donc la mairie de Paris, qui est en première ligne, qui ne cesse d'être accusée, d'être critiquée, a décidé vis-à-vis de l'État de hausser le ton, mais elle tente aussi en ce moment probablement de faire oublier son manque de réactivité, de ne pas s'être préoccupé assez vite de la question de la pollution du site, parce qu'à 8 mois des élections municipales, pour une mairie qui se dit écologiste, ça l'affiche mal.
On a compris, c'est un véritable imbroglio. Le constructeur automobile Ford a-t-il de bonnes raisons économiques de fermer son usine de Blanquefort en Gironde ? La justice doit dire dans la soirée si elle est compétente pour trancher cette question. L'usine s'est arrêtée de tourner fin juillet. Les salariés, eux, n'y croient plus vraiment. Marie Rouarche.
Michel, t-shirt rouge et tatouage, ne quitte pas sa fille Léa des yeux, lui le Ford de longue date.
Moi je vais avoir 53 en fin d'année, 33 ans de maison. Je suis Ford, 100% Ford.
Forcément, la fin de l'aventure qui se profile, il la vit mal. Difficile de garder le moral, surtout après la fermeture anticipée de l'usine fin juillet et un départ en vacances un peu plus tôt que prévu. Alors la présence de sa fille à ses côtés est encore plus indispensable.
Ça fait du bien aussi, au moral. Ça, c'est pas évident, une personne emploie après 33 ans, c'est vrai que c'est compliqué.
Du haut de ses 13 ans, Léa perçoit bien l'inquiétude de son père.
Je suis venue plusieurs fois, je suis venue à toutes les manifs avec lui, voilà. Bah, je vais être là pour lui et parce que mon père, il aura plus de travail. J'ai pas envie que Ford ça ferme.
Au-delà de l'aventure, Ford, c'est une leçon de vie que Michel essaie de transmettre à sa fille.
Je veux lui faire voir la vie, ce que ça va être plus tard. Parce que je pense que les enfants, ils vont avoir beaucoup de soucis pour le travail. Et je veux lui faire voir qu'à un moment donné, si on ne se bat pas, eh bien, on n'a rien. En se battant, on n'a rien. Donc si on ne se bat pas, eh bien, on n'aura rien, encore moins.
Michel qui veut quand même garder un dernier espoir que la justice reconnaisse les années de combat des Ford en tranchant en leur faveur dans cette bataille.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
Le député La République En Marche d'Ille-et-Vilaine, Mustapha Labide, condamné pour abus de confiance. Aujourd'hui, il écope d'une peine de 6 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et 10 000 euros d'amende pour avoir détourné l'argent d'une association d'aide à l'insertion professionnelle. Mustapha Labide a aussitôt décidé de faire appel. La peur et le ras-le-bol de l'ours dans les Pyrénées. Manifestation d'une centaine d'élus de l'Ariège aujourd'hui devant la préfecture de Toulouse. Ils assurent que les attaques du plantigrade sont toujours plus nombreuses et se disent solidaires des éleveurs. À l'étranger, Rome va durcir dès demain sa législation contre les ONG qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée. Après les députés, les sénateurs italiens ont adopté un nouveau décret dit sécuritaire, de quoi satisfaire le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. À Rome, Marie Duhamel.
Matteo Salvini parle d'une victoire pour l'Italie, un pays désormais plus sûr, mais c'est bien un succès personnel qu'enregistre le ministre de l'Intérieur. Ni les appels de l'Église à respecter les migrants, ni les sittings organisés par la gauche n'ont entamé le vote. Matteo Salvini a emporté la majorité presque absolue à une voix près. Le mouvement 5 étoiles s'était un temps rebellé avant de voter pour le texte afin de sauver, dit-il, le gouvernement. Alors que contient ce décret ? D'abord et avant tout des pouvoirs renforcés pour le ministre de l'Intérieur. Pas question pour Matteo Salvini de revivre l'affront que lui a fait subir Carlotta Rackete, la capitaine de Sea-Watch. À partir de maintenant, le ministre de l'Intérieur pourra décider seul d'interdire les eaux italiennes aux navires portant secours aux migrants s'il estime que ce bateau favorise l'immigration clandestine. Il pourra également saisir les navires d'ONG, infliger jusque 10 ans de prison en cas de résistance. Des amendes sont également prévues pour les membres d'équipage, entre 150 000 euros et 1 million d'euros d'amende pour le commandant de bord. Le président italien Sergio Mattarella a maintenant un mois pour signer ce décret, en vérifier la constitutionnalité. Rome, Marie Duhamel, France Inter.
Après avoir observé sans rien dire la contestation s'installer, la Chine tape cette fois du poing sur la table. Ceux qui jouent avec le feu périront avec le feu, c'est l'avertissement de Pékin aux manifestants pro-démocratie qui défient depuis plusieurs mois le régime communiste à Hong Kong. Pékin qui met en garde contre la puissance immense du gouvernement central. Cet avertissement est le plus fort lancé par Pékin depuis le début de la contestation dans cette ancienne colonie britannique début juin. Valérie Crova.
La patience de la Chine aurait-elle atteint ses limites? C'est en tout cas une sérieuse mise en garde adressée aux milliers de Hongkongais qui défilent contre le pouvoir chinois. Ne sous-estimez jamais la ferme détermination et la puissance immense du gouvernement central, a lancé ce matin le porte-parole du bureau chinois des affaires de Hong Kong. C'est la première fois que Pékin hausse le ton aussi fermement depuis le début de la contestation, provoquée par un projet de loi qui devait autoriser les extraditions de suspects vers la Chine. Sous la pression populaire, le projet a été suspendu. Mais les manifestations se poursuivent. Les contestataires réclament désormais le départ de la dirigeante de l'exécutif local, Carrie Lam, soutenue par Pékin. Le régime chinois s'est refusé jusqu'à présent à intervenir. Il s'est borné de rappeler qu'il disposait d'une garnison de plusieurs milliers d'hommes au cœur de Hong Kong qui pourrait intervenir à condition que les autorités hongkongaises en fassent la demande.
Au Cachemire, le risque d'embrasement se précise au lendemain de la décision explosive de l'Inde de révoquer l'autonomie de la province rebelle. Trois responsables politiques locaux ont été arrêtés et placés en détention aujourd'hui. Le Pakistan, lui aussi, hausse le ton et affirme que son armée fera tout pour aider la population du Cachemire. Une lutte juste jusqu'au bout, précise Islamabad. Le Pakistan en appelle ce soir aux instances internationales. Elle n'avait jamais oublié d'où elle venait, petite fille d'anciens esclaves à la silhouette imposante, impériale et impérieuse. La romancière, essayiste et critique littéraire américaine Toni Morrison est morte. Première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 93. Elle s'était fait connaître en France par son roman Beloved, son œuvre la plus aboutie et la plus libre. Puis viendra Jazz et Paradise, son portrait à Washington, signé Gregory Phillips.
Welcome to the White House. Le 29 mai 2012, dans la East Room de la Maison Blanche, Barack Obama remet à cette descendante d'esclaves la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis. Toni Morrison a 9 ans plus tôt déjà reçu le Nobel de littérature et en 88, le prix Pulitzer pour son roman Beloved, premier volet d'une trilogie qui, avec Jazz et Paradise, marquera la littérature contemporaine américaine. Ce jour-là, Obama décrit ainsi l'importance de Morrison.
Toni Morrison's prose. La prose de Toni Morrison nous apporte une intensité à la fois morale et émotionnelle que peu d'écrivains ont pu atteindre. De la chanson de Salomon à Beloved, Toni Morrison nous touche profondément avec une écriture à la fois lyrique, précise, distinguée et fédératrice. Et nous, nous avons la chance de la suivre dans ce voyage.
Universitaire, éditrice, elle a dans les années 70 publié les autobiographies d'Angela Davis et Mohamed Ali. Romancière, Toni Morrison a toute sa vie travaillé sur l'identité des Noirs américains. Ce soir, le même Barack Obama lui rend hommage dans un communiqué. Toni Morrison était un trésor national. Quel honneur d'avoir pu respirer le même air qu'elle, ne serait-ce qu'un instant. Washington, Gregory Phillips, France Inter.
Et toute sa vie, son œuvre et ses citations sur le site de France Inter. Il y a 74 ans, jour pour jour, à 8h15, le bombardier américain Enola Gay larguait sa bombe atomique sur Hiroshima, une sombre page de l'histoire qui allait conduire à la capitulation du Japon. Aujourd'hui, près de 50 000 personnes ont rendu hommage aux victimes de l'attaque atomique du 6 août 1945 à Tokyo. Les précisions de Frédéric Charles.
Le maire d'Hiroshima sait que la mémoire du bombardement atomique s'efface, même dans sa ville, au fil de la disparition des rares survivants. Lors d'une cérémonie devant le mausolée du Parc de la Paix en présence du Premier ministre Shinzo Abe, le maire Kazumi Matsui a rappelé au chef du gouvernement japonais que le premier pays atomisé du monde n'a toujours pas signé le premier traité d'interdiction des armes nucléaires conclu par l'ONU, et Kazumi Matsui a appelé Shinzo Abe à le faire. L'érosion de la mémoire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki trois jours plus tard par un avion américain est un atout pour le Premier ministre Shinzo Abe. Lui cherche à réviser la constitution pacifiste et à intégrer davantage l'armée japonaise dans la stratégie américaine. Le Japon dépend du parapluie nucléaire américain pour sa sécurité. Il abrite les plus grandes bases américaines en dehors des États-Unis. Malgré Hiroshima et l'accident nucléaire de Fukushima, le Japon maintient une capacité nucléaire pour se doter, le cas échéant, de l'arme atomique.
Frédéric Charles à Tokyo, au Japon. Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Frédéric.
On aura encore des orages demain.
Oui, des orages forts accompagnés de phénomènes violents comme des rafales à plus de 90 km/h, mais surtout de la grêle éclate et éclateront entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté, débordant vers les Vosges et l'Alsace. Ces orages s'évacueront vers l'est en cours de nuit, mais une autre dégradation va aborder l'Aquitaine, puis le nord de Midi-Pyrénées cette nuit, avant de gagner le Massif central en fin de nuit, avec là aussi des risques de grêle et de fortes rafales de vent. Ces orages étant localement forts, Météo France a donc placé 20 départements entre le nord de l'Occitanie et le nord-est en vigilance orange. D'ailleurs, la nuit ne sera pas calme pour autant, puisqu'une perturbation située sur le nord-ouest va également apporter des pluies et des orages entre cette nuit et demain matin, entre les Pays de la Loire, le bassin parisien, la Sologne et les frontières belges.
Puis l'amélioration va arriver par l'ouest demain.
Oui, dès demain matin, quelques éclaircies seront de retour sur le quart nord-ouest, alors que les averses et les pluies seront encore localement orageuses entre le Grand Est, le Massif central et les Alpes du Nord. Au fil de la journée, l'accalmie va progresser vers l'est et le sud-ouest avec des éclaircies plus franches. Sur le quart nord-est et Rhône-Alpes, l'après-midi sera encore émaillé d'averses. Sur le pourtour méditerranéen, les éclaircies du matin seront assez belles et le soleil dominera l'après-midi avec la reprise de la tramontane. Et puis sur les plages du Languedoc-Roussillon, il faudra quand même composer avec quelques grisailles matinales.
Merci Sébastien. Tiens, Léas.